ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Laissez-vous guider.
Le monde célèbre la Journée mondiale de l'éléphant le 12 août de chaque année. Rappelons que ces animaux continuent d'être tués ou capturés de manière illégale. Cela dans le but d'extraire les points d'ivoire dont la vente rapporte des bénéfices juteux. Et en RDC, il existe un vaste réseau des trafiquants d'ivoire, d'après nos sources. Conséquence, ces animaux sont décimés et le pays ne compte pas plus de 10 000 éléphants d'après l'ICCN. Alors pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. Hugues Garpona, directeur pays de African Wildlife Foundation, et M. Christian Mabita, vice-président de l'ONG Juristral. Alors, Hugues Garpona, aujourd'hui, le monde célèbre la Journée mondiale de l'éléphant. Quel est le message qui est diffusé à l'occasion de cette journée?
Alors, le message qui est diffusé à l'occasion de cette Journée mondiale de l'éléphant veut que nous nous mettions ensemble, que le monde se mette ensemble pour sauver les éléphants, tout simplement.
Voilà. Donc on peut dire que les éléphants sont en danger. Et quelle est la source de ces dangers qui les guettent?
Bien évidemment, je crois que pour qu'un éléphant puisse vivre en paix, il lui faut un habitat assez représentatif et il faut moins de pressions, qui sont généralement des pressions anthropiques. Donc déjà, la valeur qu'a pris l'ivoire sur le marché engendre une forte demande et donc entraîne aussi une certaine pression de braconnage assez importante sur les éléphants, ne serait-ce que pour leur ivoire. Et aussi, il faut dire que au niveau local, le niveau de pauvreté aussi rend vulnérables les populations qui vivent, qui aussi s'adonnent à cette activité, même si ce que ces populations gagnent en retour n'est pas du tout comparable à ce que les braconniers eux-mêmes gagne à l'issue du processus de commercialisation des points d'ivoire.
Et la situation, on peut dire qu'elle est générale un peu partout dans le monde. Les éléphants sont menacés un peu partout.
Bien évidemment, les éléphants sont menacés un peu partout. Partout où nous avons des éléphants en Afrique, ces éléphants sont menacés par une certaine pression du braconnage. Et c'est un phénomène assez général. En plus, comme vous le savez, les éléphants n'ont pas de frontières. Donc le problème qui se pose en RDC se posera forcément dans les pays limitrophes, parce que les éléphants font des allées et des venues entre les différents pays.
Comme c'est le cas actuellement vers Manono, dans la province du Katanga, où les gens déplorent les mouvements des éléphants qui détruisent même les champs.
Bien évidemment, je crois que c'est une problématique à prendre de manière globale, parce que quand conserver l'éléphant veut dire aussi intégrer tout ce qui peut être conflit homme-éléphant. Et je crois qu'il y a assez de méthodes. Généralement, il faut dire que l'éléphant a une forte mémoire et revient toujours, même à la dixième génération, sur les lieux où il s'était établi. Et comme vous le savez, les éléphants...
Ce sont des animaux qui bougent beaucoup, qui se déplacent beaucoup.
Et surtout quand l'habitat est menacé. Vous savez que la RDC a passé un certain nombre d'années de guerre. Donc ça n'a pas créé une certaine quiétude aux éléphants qui ont certainement migré de l'autre côté. Mmh. Et vu donc le calme qui revient de plus en plus, ces éléphants reviennent sur leur habitat naturel, mais sur leur chemin de retour, ils constatent quand même que des populations se sont installées le long, et puis bon, voilà, ça crée un peu cela.
Mais ils détruisent tout sur leur passage. Hein?
Bon, ils détruisent ce qu'ils voient sur leur passage, c'est sûr, mais il y a toujours quand même des méthodes assez innovatrices pour gérer ces conflits hommes-éléphants qui ont fait leur preuve dans beaucoup de pays africains et qui peuvent être répliqués aussi dans ces zones où ces conflits sont identifiés.
Alors, qu'est fait aujourd'hui AWF par rapport à la protection des éléphants en République démocratique du Congo particulièrement?
Ok, déjà, AWF adopte une approche holistique, en fait, pour gérer cette problématique de braconnage sur les éléphants, et à travers trois grands piliers. Donc, travaille à arrêter la demande, travaille à arrêter la contrebande et à aussi arrêter le massacre. Arrêter le massacre nous amène à continuer à appuyer l'ICCN dans sa lutte quotidienne au niveau des aires protégées, dans la gestion donc de ces réserves qui sont ainsi importantes pour les éléphants, et aussi dans l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont riveraines à ces aires protégées. Dans le sens de l'arrêt de la contrebande, Adouverbe s'investit à accroître le taux de détection de l'illégalité. Donc, à travers donc certaines technologies qu'on apporte au niveau local, comme le smart, le cyber tracker, et qui permettent réellement de renforcer la détection de l'illégalité. À travers donc des formations au niveau des aéroports, au profit des différentes organisations qui s'occupent de la sécurité du contrôle pour qu'on puisse améliorer la détection de l'illégalité. Et Adouverbe est assez intéressé aussi, comme on l'a fait dans plusieurs autres pays africains, à mettre au niveau des aéroports des chiens renifleurs qui vont permettre de détecter
les
points d'ivoire
et
donc les organes d'animaux. Et au niveau de pour arrêter la demande, Adouverbe s'investit dans le plaidoyer au quotidien, dans l'implication de certaines célébrités pour passer diffuser le message sur le risque qu'on court à continuer avec ce rythme de braconnage au niveau de l'Afrique.
Alors, Monsieur Christian Mabita, vous êtes vice-président de l'ONG Juristral, juriste pour le renforcement et l'application de la loi dans le secteur de l'environnement. Est-ce que la loi est appliquée par rapport au trafic des éléphants dans notre pays?
Oui, merci pour la parole. Je crois que c'est cela la vraie problématique. L'arsenal juridique congolais regorge de bons textes et de lois. Mais les vrais problèmes qui se posent, c'est au niveau de l'application de ces lois. Ces lois semblent ne pas être appliquées comme il se doit. Donc nous constatons qu'il y a un certain laxisme dans l'application de la loi par des personnes qui sont censées les appliquer. Donc c'est vraiment quelque chose que nous sommes en train de déplorer tous les jours. Un certain déni de justice en ce qui concerne la criminalité faunique. On a tendance à considérer que ce sont des infractions mineures, alors que la loi prévoit, la loi érige un certain nombre de comportements en infractions.
Lesquels par exemple?
Le fait par exemple de capturer, de détenir, de saisir par exemple un spécimen d'une espèce protégée. On ne peut pas vous retrouver par exemple avec l'ivoire en main. L'ivoire, qui est un spécimen de l'éléphant, qui est une espèce intégralement protégée, on ne peut pas vous trouver avec ça. Le fait que vous déteniez de l'ivoire entre vos mains, c'est déjà une infraction punissable par la loi.
Voilà. Alors, il y a des colis qui ont été, par exemple, saisis à l'aéroport d'Ndjili, je crois que l'année dernière, où des Congolais, des trafiquants, en collaboration avec des Vietnamiens, voulaient faire partir un certain nombre de colis. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces gens? Étaient-ils condamnés? Et ces colis se trouvent où? Dans d'autres pays? On a incinéré, par exemple, au Congo-Brazzaville ou au Kenya.
Effectivement, ce genre de colis, quelquefois, la DGDA, donc les services de douane, détiennent ces colis. Et donc saisissent ces colis, et il arrive des fois aussi que certaines personnes, certains criminels sont arrêtés et des fois jugés. Comme vous le savez, dernièrement, il y a eu un sujet chinois qui avait été jugé et condamné au niveau du tribunal de grande instance d'Ndjili. Donc, quelquefois aussi, nos magistrats se saisissent de ces dossiers et punissent aussi les criminels.
Et quelle est la sanction que la loi réserve aux criminels?
Contrairement à l'ordonnance de 1969, où il n'y avait pas vraiment un régime répressif assez dissuasif, mais l'actuelle loi, la loi 14/003 du 11 février 2014, a prévu des sanctions dissuasives allant de 5 ans à 10 ans de servitude pénale, de 5 millions à 25 millions de francs congolais. Donc ce sont des sanctions dissuasives qui doivent être appliquées pour pouvoir décourager les criminels à entreprendre cette pratique avilissante de braconnage.
Voilà. Mais vous dites que parfois il y a en sanction, parfois il n'y a pas de sanction, et les ivoires, les points d'ivoire ne sont pas incinérés. Mais est-ce qu'on peut dire que les trafics se portent bien ici, chez nous?
Bon, le vrai problème, c'est que nos gouvernants ont tendance à regarder la question de la faune à travers les trous de la lorgnette, alors qu'il fallait les regarder normalement, punir les infracteurs comme il se doit, comme prévoit la loi. Mais ce que nous constatons dans la pratique, c'est que il y a donc la punissabilité, en tout cas, fait défaut. Quoique la loi prévoit des sanctions dissuasives, mais dans la pratique, lorsque un délinquant est arrêté, généralement, c'est après deux, trois jours, il est libéré. C'est ça que nous sommes en train de constater sur le terrain.
Bien, nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Christian Mayembe nous appelle de Bukavu et Symphorien Bidoya de Kananga. Vous voulez également participer à cette émission? Appelez-nous au 081 890 63 94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Comment lutter contre le braconnage des éléphants et le commerce illicite des pointes d'ivoire? Christian Mayembe, vous êtes à Bukavu. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, je dis bonjour à nos deux invités ainsi qu'aux auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Moi, ce que j'ai suivi à nos deux invités, c'est comme s'ils n'ont pas touché les vrais problèmes du braconnage des éléphants parce que ils n'ont pas parlé de nos militaires. Parce que c'est une question que nous retrouvons, ce sont les officiers et les militaires qui sont à la base de cette situation et c'est un grand réseau qui est organisé jusqu'à arriver à l'exportation de ces ivoires. C'est ainsi que je demande aux invités ce qu'ils font pour arrêter ce système à nos militaires parce que c'est une question... tabou, là où tout le monde n'était pas beaucoup parlé, tandis que les éléphants sont en train d'être décimés par les militaires. Alors, les braconniers civils ne sont pas quand même tellement impliqués dans cette situation plus que les militaires. Alors, quels sont les efforts qu'ils sont en train de mettre pour que cette situation soit sévèrement sanctionnée? Voilà ma question, je dis.
Merci Christian. Symphorien Bidoya de Kananga, bonjour. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour, je suis Daniel Kachama. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Oui, j'ai deux préoccupations. La première, c'est celle de savoir d'abord, en entendant nos invités parler, je n'ai pas vraiment saisi la responsabilité pour les braconnages dans notre pays. La responsabilité, c'est un combat qui n'assure vraiment pas son rôle parce que nous voyons que presque tous les éléphants du pays sont en train d'être exterminés, en vue d'avoir les ivoires. Et je demande aussi, dernièrement, on a suivi que du côté de l'Est, il y a les éléphants qui étaient en train de ravager les champs des paysans. Et puis, je ne sais pas, quand les éléphants sont en train de ravager les champs des paysans, les paysans n'ont-ils pas aussi raison de tuer ces éléphants et quand après avoir ravagé, le gouvernement peut-être ne s'occupe pas pour peut-être payer ces gens-là ou soit essayer de bien encadrer les éléphants. C'est pas aussi là la faute du gouvernement. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.
Bien, Charles Kisimba de Lubumbashi, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Yodi, bonjour aux invités. J'ai des petites préoccupations. La première est la suivante. Du fait que les services de l'environnement demeurent toujours incapables de bien gérer ces espèces, au cas où les paisibles citoyens arrivaient à tuer ces animaux ou ces cibles, est-ce qu'il y aura pénalité ou poursuite, sachant qu'ils sont à protéger ou à craindre? J'aimerais me focaliser sur l'approche juridique. Et la deuxième question, est-ce que par rapport à tous ces défilés des éléphants dans les territoires de Manono, Malimbankulu, Bukama, pour ne citer que cela, on peut parler de la divagation? Merci et bonne journée.
Bien, merci Charles Kisimba. Alors, on a suivi Christian de Bukavu, Christian Mabita. Il nous dit que ce sont les officiers militaires qui sont impliqués dans le trafic des points d'ivoire. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au niveau des juristrales pour sensibiliser ces officiers afin de lutter contre les trafics, le braconnage des éléphants?
Bon, en tout cas, la lutte contre le braconnage passe inéluctablement par la sensibilisation, par l'application de la loi et par la répression, nous l'avons dit. En tant qu'organisation de la société civile qui lutte contre le braconnage, nous arrivons à sensibiliser chaque fois avec l'appui de nos partenaires WWF qui est ici présent. Nous organisons des séances de renforcement des capacités, des sensibilisations.
À l'intention des officiers militaires.
Pas seulement des officiers militaires, de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette question. Il y a aussi des officiers militaires qui prennent part à ce genre de réunions. Donc c'est question de les sensibiliser afin qu'ils prennent conscience de cette menace qui pèse sur les éléphants. Chaque fois nous les invitons, il y a des officiers militaires qui prennent part à ces forums et ils ont toute la connaissance qu'il faut pour pouvoir aussi partager avec les leurs.
Est-ce qu'il y a déjà eu des procès à l'endroit de certains officiers militaires impliqués et des sanctions?
Oui, en termes de procès, il en existe. En province, il y a quelques procès qui ont déjà eu lieu où quelques sujets militaires sont des fois condamnés par rapport à cela. Et d'ailleurs, tout à l'heure, si je peux me permettre, il y a un ancien militaire qui a été appréhendé du côté de Lusambo, qui a été arrêté. Et pour le moment où nous parlons, il est déjà aux arrêts. Il va être déféré ici à la prison d'Indolo. Ça prouve que le travail est en train d'être fait, quel que soit que l'on soit militaire.
On l'avait surpris avec des points d'ivoire.
Ouais, il était en train de faire du braconnage et tout ça, utilisant les armes, les munitions et tout ça. Donc des armes inappropriées. Il a été appréhendé et déjà il va être déféré d'ici peu ici à Kinshasa, à la prison d'Indolo, pour être jugé. Donc il n'est pas question seulement des civils, mais aussi des militaires.
Des militaires. Hugues Akoma.
Ok, déjà par rapport à cette question, je voudrais dire que Le bras armé de cette lutte passe d'abord par la sensibilisation, l'information, parce que on suppose que celui qui n'est pas bien informé de la gravité de son acte ne peut pas en prendre conscience. Et donc, nous attelons à cela. Et comme je le disais déjà en introduction, que ça soit les juges, que ça soit les agents de la DGM, que ça soit les forces militaires, etc., nous essayons de les inclure dans notre processus de partage de l'information. Et en second lieu, nous avons aussi le gouvernement de la RDC a aussi su comprendre cette nécessité en mettant en place une unité mixte ICCN-FRDC pour la gestion des aires protégées. Et nous pensons que cette unité peut permettre réellement aussi de réduire le risque d'implication de tous ces acteurs dans le braconnage. Et au niveau de nos zones d'intervention aussi, nous avons mis en place un certain nombre de plateformes qui impliquent tous les acteurs, dont les FRDC dans l'ex-province de l'Équateur. Nous avions mis en place ce qu'on appelait le Coco Équateur, qui est une plateforme de collaboration, de concertation entre tous les acteurs intervenant dans la province en matière de d'environnement. Et je crois la structure qui gère cette plateforme est composée d'un représentant des FRDC qui est en fait notre bras armé pour toutes les interventions. Et nous avons plusieurs fois aussi déjà impliqué les FRDC dans la gestion des conflits au niveau des aires protégées, histoire quand même de mieux faire connaître les aires protégées, leur importance et de susciter une certaine implication plus active de tous ces acteurs dans la lutte contre le braconnage.
Voilà. Une autre question, si on continue à tuer les éléphants, qui est responsable de cela? C'est un forien qui ne joue pas son rôle dans la protection de ces animaux. Et quand les éléphants, par exemple, détruisent les champs, comme on l'a dit au Katanga, et que la population excédée arrive à les tuer, est-ce que il y aura des poursuites, Monsieur Christian?
Oui, quel que soit qu'un éléphant détruise ne sais pas, un champ de manioc ou de quoi. En fait, les populations ne sont pas autorisées à pouvoir tuer les éléphants. Donc, cela ne vous dédouane pas. Quoique l'éléphant ait détruit votre champ, cela ne vous dédouane pas de la punissabilité. Vous avez commis une infraction pour laquelle vous devez être puni. Donc, on n'autorise pas la population de pouvoir tuer les éléphants parce qu'ils ont détruit les champs.
Alors, ils demandent, est-ce qu'il y aura des dommages? Est-ce que le gouvernement va indemniser ces gens qui ont subi des dommages lors du passage des éléphants?
Bon, l'indemnisation, ça, c'est une autre question. il faut pouvoir prouver aussi qu'effectivement il y a eu dommage. Donc, il est difficile de pouvoir démontrer que vous avez subi un certain dommage par rapport à ceci, par rapport à cela. Et donc, c'est un peu difficile à pouvoir réaliser toutes ces choses.
Bien. Je reviens à vous tout à l'heure. J'irai, c'est Marc Aïtaban de Nouville. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Ah, merci pour la parole. J'ai une question à poser à l'invité. Mais dis-moi, je commence par rafraîchir la mémoire des auditeurs de Radio Capitaine, disons que la vie est faite d'une complémentarité entre les êtres animés et inanimés, parmi lesquels les éléphants. Et ces éléphants, leurs habitats sont très éloignés des villes et des grands centres urbains où les lois sont produites et sont rapprochés, bien sûr, des villages où vivent la population paysanne. Et cette population paysanne ne connaît pas vraiment les différentes lois qui sont produites pour protéger la nature. Alors si monsieur l'invité de la Radio Capitaine peut nous dire en quelle langue nationale plutôt les différentes lois sont-elles produites. Merci beaucoup.
Bien. Hugues Pona.
Alors, déjà, je reviens à la question sur les conflits entre hommes et éléphants. Je l'avais expliqué un peu, pourquoi les éléphants reviennent toujours vers leur habitat naturel, vers leur habitat originel. Et donc, je pense, à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait une solution magique. Je voudrais tout simplement recommander que les populations qui déjà identifient ces genres de conflits puissent le plus vite possible se rapprocher de l'ICCN, histoire réellement de gérer ce genre de conflit de manière très proactive. En ce sens que il y a un certain nombre de méthodes qui ont prouvé leur efficacité pour réellement gérer ce genre de conflit. Et donc il ne s'agit pas vraiment de commencer par tuer, parce que au fur et à mesure que vous tuez aussi, l'éléphant devient un peu plus agressif et donc les autres aussi viendront certainement causer plus de dégâts. Donc il faut voir un peu comment on fait cet équilibre. Il y a des méthodes de mitigation qui existent, comme le piment, comme la possibilité de regrouper les champs, etc., d'éviter les couloirs de passage de ces éléphants, etc., qui existent et qui peuvent être utiles au niveau local.
Voilà. Et je reste dit, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut sensibiliser pour protéger, pour lutter contre le braconnage et les commerces illicites des points d'ivoire. Il faut une forte sensibilisation. Alors, il dit, vous faites cette sensibilisation en langue locale afin que le message aille un peu plus loin.
Bien évidemment. Je pense que la communication a ses principes. Nous ne pouvons pas aller parler à une population dans le territoire de Djoulou qui ne comprend pas français. Nous ne pouvons pas aller lui parler en français. Donc, bien évidemment, toutes les séances de sensibilisation que nous faisons se font avec déjà des membres de communautés locales qui sont soit formés par Juristral, soit formés par nous, pour vraiment diffuser le message de la conservation, avec aussi des possibilités de présentation imagée, par exemple des lois. Vous savez, l'image parle plus que les mots au niveau local. Les gens peuvent voir, comprendre. Donc il y a autant de méthodes de communication qui sont utilisées qui permettent réellement de diffuser l'information au niveau local.
Et à part la sensibilisation, qu'est-ce qui doit encore être fait pour lutter contre le braconnage des éléphants?
Alors, à part la sensibilisation, il faut, bien évidemment, chacun jouera son rôle. ICCN jouera son rôle dans l'application des lois. Donc, pouvoir quand même montrer aux personnes qui ont été informées que la loi que force reste à la loi. Et aussi, comme je le disais, il faut aussi travailler à détecter plus l'illégalité. Parce que vous savez, je peux passer à côté de vous avec un colis d'ivoire sans que vous ne sachiez. Et tant que vous n'avez pas détecté ce colis d'ivoire, vous ne pouvez pas me punir. Donc, il faut pouvoir améliorer la détection de l'illégalité. Et donc, ensuite, il faut aussi continuer à améliorer la gestion des aires protégées. Si une aire protégée est bien gérée, elle peut être moins vulnérable aux braconniers qui entrent et donc conserver plus ses éléphants au niveau donc de ces aires protégées. Bien sûr, on ne peut pas parler de conservation sans parler de développement. Donc, il faut pouvoir faire cet équilibre au fur et à mesure pour quand même toujours apporter un plus au niveau local. Et le reste de l'eau, c'est de pouvoir continuer à faire le plaidoyer, le lobbying au niveau de toutes les autorités à tous les niveaux pour une meilleure implication dans cette lutte, parce que c'est une lutte commune.
Arsène Odon nous appelle Dar es Salaam en Tanzanie. Bonjour Arsène.
Merci. Je suis fier de piquer les solutions que notre invité vient nécessairement d'énumérer pour la sensibilisation. Mais quelque part, j'ai pu aussi augmenter pour les comptes des autorités. Vous savez, les Ivoiriens aujourd'hui, ça fait, ici même à Tanzanie, vraiment, il n'y a pas une forte sensibilisation par rapport au Kenya, par rapport au Rwanda. Mais ce que je pouvais nécessairement demander à notre invité, regardez les peuples autochtones. Quand il n'y a pas le bon développement, par exemple, il n'y a pas des infrastructures, des hôpitaux, il n'y a pas encore des écoles, tout ça, comment ils vont protéger? Et pourtant, ils savent bien que bon, ils ont aussi droit de juger leur bonheur, par exemple, pour essayer de ne pas les protéger quand il y a des problèmes, de l'argent qui entre pour les touristes et les visiteurs et ils ne sont pas bénéficiaires. Ils peuvent aussi regarder ce côté-là. Autre chose que je voulais demander, c'est par rapport dans nos aéroports. Hein. Vous voyez, les Chinois, ils ne sont pas vraiment assez contrôlés par rapport aux autres étrangers. Quelque part aussi, ça pouvait influencer. C'est comme si les Chinois, ils ont aussi beaucoup de monopoles par rapport aux autres étrangers. Et pourtant, ce sont ceux qui sont à la base des ventes de tous ces ivoires. Et aujourd'hui, on commence à donner des éléphants de poison dans des fonds, des poisons, dans des forêts, et ça la perte de la vie comme ça, et vous vous rendez compte que les Chinois sont en train de construire des routes, dans les sacs à main, dans les bagages, ils ont des ivoires. On doit aussi contrôler ces Chinois bien pour essayer d'équilibrer. C'est ça. Ok.
D'accord. Merci Arsène Prince. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Bonjour, Jégui, et bonjour, nous deux invités.
On vous écoute?
Oui, moi j'avais juste une question que je voulais m'adresser, soit poser nos deux invités. La vie, bon, la vie humaine est une vie sacrée. Non, je voulais savoir, entre l'homme ainsi que l'animal, qui doit être protégé? Parce que moi, j'ai un petit témoignage, j'ai vécu très longtemps dans le territoire de Malembankulu, où j'ai vu les éléphants qui ont commis des dégâts, ils ont ravagé les champs de la population, ils ont tué la population. Mais un jour, la population s'était mise en colère, ils ont abattu un éléphant. Maintenant, l'administrateur du territoire a déployé toute une jupe de policiers et on avait arrêté le monsieur là qui avait
tué l'éléphant.
Cet éléphant. Non, moi, je veux savoir, entre l'homme et l'animal,
qui doit être protégé. D'accord. Merci, Prince de Lubumbashi. Freddy Tshibwabwa, vous êtes à Kananga. Quelle est votre question? Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour aussi aux invités.
On vous écoute.
Oui, ma question est juste de savoir un peu, mais pourquoi on protège tout simplement que les éléphants? Et aussi, supposons que par exemple, il y a un éléphant qui a menacé une personne et la personne est décédée même. Et en ce moment-là, on ne peut pas tuer aussi l'éléphant parce qu'il paraît que selon les invités, on tient compte tout simplement de l'instinct de conservation de la nature. Mais quand un éléphant tue vraiment une personne, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la population peut faire? Et quelles mesures aussi que l'État congolais a instauré pour défendre les gens? C'est ça, je vous remercie.
Merci, monsieur Christian Mabita.
Bon, d'emblée, je dirais qu'un éléphant ne peut pas tuer un homme s'il n'a pas été victime d'une menace quelque part. C'est peut-être que l'homme est allé dans le sens de le menacer. Et en réaction, il peut arriver à donner la mort. Bon, ce n'est pas que nous encourageons, ce n'est pas que nous disons que la protection de l'éléphant est plus que la protection
de la vie humaine.
De la vie humaine. La vie humaine est au-dessus de tout, mais vous savez que le monde est fait d'équilibre. Donc, les animaux sont d'autant plus aussi importants pour nous, les hommes. Donc, nous devons faire en sorte qu'il y ait cet équilibre-là, que les individus arrivent aussi à ne pas causer des dégâts du côté des animaux et que les animaux aussi restent en sécurité. Parce que lorsqu'un animal se sent menacé, il réagit. Il réagit dans le sens aussi de pouvoir menacer la vie humaine. Donc faisons
en sorte que... Est-ce qu'il est possible de contenir ces éléphants quelque part pour les empêcher de ne pas trop bouger?
Bon, c'est un peu difficile parce que les aires protégées n'ont pas de barrières. Donc, ils n'ont pas d'enclos. Mmh. Les animaux peuvent se déplacer à tout moment. Ils peuvent se déplacer, mais comme M. Hick venait de le dire, chaque fois que les hommes ou les populations subissent une certaine menace de la part des animaux, il faut toujours pouvoir dire à l'ICCN pour que ces derniers puissent prendre des précautions afin de les ramener là où ils se doivent.
Mmh.
Oui, je crois déjà par rapport à votre question de pouvoir contenir les éléphants, je pense déjà c'est ce qui justifie qu'une approche globale a été prise par la RDC pour ériger tout au moins 17% du territoire en aire protégée, histoire réellement de donner assez d'espace pour quand même faciliter le mouvement libre de ces différentes espèces. Et donc pour revenir aux différentes questions, je commencerai peut-être par la dernière qui dit si un éléphant tue un homme, il faut qu'en réplique l'homme tue l'éléphant. Juste pour répondre à ça, je voudrais donner un cas de figure où dans un accident vous tuez une personne par mégarde. Accepteriez-vous qu'on vous tue parce que vous avez tué une personne? C'est aussi le même cas. L'éléphant qui retourne dans son habitat et se sent peut-être agressé, etc., et se voit dans une situation où un homme perd la vie. Est-ce que il faut vraiment aller en réplique pour tuer cet éléphant? Donc, c'est un peu dans ce sens qu'on doit voir. On doit pouvoir prévenir l'accident. On doit pouvoir prévenir que cela arrive. Et c'est le plus important. Et pour revenir donc à la question de entre l'homme et l'animal, qui est-ce qu'on doit protéger? Je pense qu'on doit protéger les deux. Parce que ça soit l'éléphant ou l'homme, nous avons un rôle clé à jouer. Alors peut-être qu'on oublie un peu souvent le rôle que jouent ces différentes espèces dans la sécurité alimentaire, dans le maintien de l'équilibre écologique, qui font que nous vivons bien sur Terre. L'éléphant qui permet par exemple de la dissémination des semences dans une aire protégée et qui permet à ce que les produits forestiers non ligneux que nous consommons puissent quand même se repeupler le milieu, joue un rôle clé. Donc nous devons aussi considérer toute cette importance écologique que jouent ces espèces. Mmh. Pour la première question, je crois il y a bien sûr au niveau de l'ICCN une clé de répartition des recettes du tourisme au niveau de tous les acteurs, y compris les communautés riveraines. Non, je ne partage pas forcément cette opinion selon laquelle les communautés n'ont rien du tourisme. Mais la grande question, c'est de savoir quelles sont les opportunités qu'offre la RDC en matière de tourisme quand on constate que la plupart des aires protégées se retrouvent dans des endroits assez reculés, difficiles d'accès, et que le tourisme dans ces conditions ne peut se développer comme cela se développe par exemple au Kenya et dans ces pays, dans les autres pays de l'Est, et ce qui rapporte beaucoup plus d'argent. Mmh. Au niveau de nos aires protégées, généralement, à cause de l'accessibilité, à cause aussi des formalités de migration, etc., on n'a pas assez de touristes. Et ce qui veut dire, donc la conséquence, c'est que la part qui sera adressée aux communautés, elle sera faible et infime par rapport aux défis qui se posent au niveau local. Et donc, je voulais faire un peu ce plaidoyer. Et par rapport au contrôle de tout ce qu'on appelle acteurs de braconnage, je pense que, comme je le disais, il faut renforcer la capacité de détecter l'illégalité. Parce que même si quelqu'un prend de l'ivoire en RDC, et veut sortir avec, cette personne va forcément transiter par nos différentes frontières. Mmh. Et donc, si au niveau de ces frontières, nous pouvons détecter déjà ces points d'ivoire et que ces acteurs qui font le contrôle au niveau donc des frontières, je parle de tout ce qui est force de sécurité publique,
service d'immigration,
immigration, tout et tout, alors on pourrait renforcer notre capacité à détecter, à arrêter, à décourager ce phénomène.
Voilà. Et Monsieur Christian, les autres pays ont incinéré publiquement les points d'ivoire, Brazzaville, au Kenya. Mais ici chez nous, qu'est-ce qu'on attend pour aussi faire comme les autres?
Bon, je sais que avec les plaidoyers au niveau du gouvernement, le gouvernement de la République comprendra aussi qu'il est important de les faire comme les autres. Parce que évidemment, il faut démontrer à la face du monde que l'ivoire ne représente aucune valeur marchande. Donc si vraiment on veut s'engager à une lutte vraiment acharnée contre les trafics illicites de l'ivoire, il faut commencer par démontrer à la face du monde que la valeur de l'ivoire, c'est zéro. Donc c'est vraiment à ce prix-là que l'on pourra vraiment gagner cette lutte.
Voilà, on retient que pour lutter contre le braconnage, les éléphants et le commerce illicite des points d'ivoire, vous avez dit qu'il faut sensibiliser, beaucoup plus appuyer sur la sensibilisation, et puis améliorer la détection de l'illégalité au niveau des postes frontaliers, et protéger les aires protégées. Et puis, vous avez parlé aussi du développement. Il faut développer les contrées, qu'il y ait des écoles, des hôpitaux, tout ça, et puis le plaidoyer, afin de protéger ces animaux. Et on a suivi l'ICCN, d'après l'ICCN, le pays ne compte plus de 10 000. Aujourd'hui, on n'a pas plus de 10 000 éléphants, alors qu'il y a quelques années, on avait plus de 15 000. Donc, il y a vraiment urgence et nous devons tous agir pour protéger ces espèces. Nous disons merci à Hugues Akpona, directeur pays des African Wildlife Foundation, et merci également à Christian Mabita, vice-président de l'ONG Juristral. À la prochaine.